Bonjour à toutes et à tous, et je veux tout à nouveau vous souhaiter une bonne année. Alors, j'avais envoyé un message de bonne année sur le groupe WhatsApp de l'église. Je ne l'ai pas sous les yeux parce que mon téléphone est utilisé, mais je le réitère. Hein. Bon, ma femme m'a dit « T'as copié ça où ?» Non, je ne l'ai pas copié, je l'ai écrit. Et puis après, elle m'a avoué ce que certainement beaucoup d'entre vous vont avouer aussi, c'est qu'en fait, le sens étymologique du mot enthousiasme, on ne le connaît pas. Hein? Voilà. Donc quand je souhaite que nous ayons de l'enthousiasme, c'est un mot qui vient du grec et dans lequel il y a théos, hein, tous, T-H-O-U-S, c'est théos, théos, c'est Dieu. Et l'enthousiasme, c'est être transporté par Dieu, c'est être motivé, propulsé, plein de Dieu. C'est ça l'enthousiasme au sens étymologique du mot. Alors que nous ayons, frères et sœurs, de l'enthousiasme au vrai sens du terme. Amen. Alors, voilà une nouvelle année qui commence. Nous aurons une diapo, mais pas encore. Hein, je ferai signe à chaque fois qu'on passe à la diapo. Une nouvelle année. Moi, je me suis interrogé il y a deux nuits. Le message, il m'est venu dans la nuit. Après, je ne pouvais plus dormir, j'ai dû me lever. Voilà. Et je disais, mais c'est une nouvelle année ou bien c'est une année nouvelle? Bah, une nouvelle année, bah, y a une nouvelle année, quoi. Une autre. Puis une autre, puis une autre, et puis encore. Peut-être qu'il ressemble à la précédente. On espère évidemment qu'à l'égard du protocole sanitaire et tout ça, ça ressemblera pas. Mais dans mon âme, dans ma vie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une autre année? Ou est-ce que c'est une année nouvelle? Et frères et sœurs, Dieu veut que notre année soit neuve. Nouvelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les Écritures, il est dit et redit, et combien s'est appuyé le fait que les choses en Jésus-Christ sont faites nouvelles. Et cela amène un champ nouveau. Un nom nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau, une nouvelle alliance, un homme nouveau, une nouvelle patte. Et nous parlons fréquemment de la nouvelle naissance, qui n'est pas exactement le terme que Jésus emploie. Il dit, il te faut naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça qu'il te faut naître d'en haut. Et j'aimerais ce matin que nous redécouvrions, s'il le faut, quelque chose de formidable dans la parole de Dieu et dans notre identité de chrétien. Et un appel pour que notre année soit nouvelle. Peut-être que vous en avez marre, même de votre vie chrétienne. Vous dites, je stagne. Bien sûr, je suis né de nouveau. Bien sûr, je suis converti, je suis sauvé. Je le sais, le Seigneur dirige ma vie. Mais ben, j'aspire à quelque chose de nouveau. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies à chaque fois. Et on va le voir ce matin en détail. Parce que ça fait partie du salut. Et c'est la première diapositive qu'on va mettre, le salut. C'est quoi le salut? Si vous allez en Tite 3, verset 5, c'est projeté, mais vous le pouvez le prendre dans votre Bible si c'est écrit trop petit. En Tite 3, verset 5, il est dit que Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, donc c'est pas par nos propres mérites, c'est pas par notre œuvre, c'est pas parce qu'on le vaut bien, pas du tout. Mais c'est selon sa miséricorde, c'est son amour, sa pitié, son cœur qui pardonne. Et voyons les deux manières avec lesquelles Dieu nous sauve. Par lesquelles Dieu nous sauve. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Voilà un mot bien particulier, la régénération. Être à nouveau généré. La genèse, les gènes, hein, nous on parle de la génétique, évidemment, pour qu'il y ait un enfant, il faut des gènes, et ces gènes vont lui donner la nature pour moitié de son père, pour moitié de sa mère, une génétique, et voilà un enfant qui est généré. Et il dit, mais avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait naître d'en haut. Il nous a fait naître d'en haut, ce qui est chair et chair. On est né d'en bas, avec nos parents. Puis Nicodème disait, mais comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère alors que je suis vieux? C'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on peut faire? Et Dieu lui dit, mais l'esprit, c'est l'esprit qui fait, c'est l'esprit qui souffle où il veut. Celui qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et donc, la première chose du salut, c'est déjà, vous avez remarqué le mot, une régénération, c'est-à-dire qu'il y a profondément une création nouvelle que Dieu fait. C'est nouveau, c'est pas de l'ancien, c'est une nouvelle génétique, c'est une nouvelle nature, c'est une naissance d'en haut, et ça transforme complètement les choses. Et ça donne une nouvelle identité. Et ça se fait une fois pour toutes. La régénération, elle est accomplie une fois pour toutes. Nous allons le voir dans plusieurs passages. En 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque quelqu'un prend Jésus-Christ comme son berger, comme son sauveur, comme son Seigneur, qu'il dit au Seigneur Jésus, dirige ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie, je deviens ton disciple aujourd'hui. Eh bien, si quelqu'un est en Christ par la foi et la repentance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur nous rend participants de la nature divine, il met sa semence en nous, il met la semence de l'Esprit en nous, pour que notre vie, à toujours, soit changée, transformée. Il y a un avant, il y a un après, l'avant est mort et enterré. Et c'est le symbole du baptême. Le baptême, c'est-à-dire l'immersion de la régénération. Voyons-le en Romains 6,4. C'est le second passage, Romains 6,4. Un deuxième passage qui parle des choses nouvelles. Nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire enterrés avec lui, avec Christ, par le baptême en sa mort. Nous avons été associés à Jésus-Christ dans sa mort. Et le baptême d'eau en est un symbole de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, une nouvelle vie, Et oui, parce que l'eau est à la fois symbole de la tombe et de la mort, où on est couché sous l'eau et on meurt noyé, et c'est à la fois le symbole du ventre maternel et de la poche d'eau de laquelle le nouveau-né va sortir. En nouveauté de vie. Une naissance d'en haut. Nous avons été ensevelis avec Christ. Nous sommes morts au péché, est-il dit dans ce même passage. Morts au vieil homme, à l'ancienne vie. Mon identité de ce qui était né de la chair, eh bien, il s'est opéré une naissance d'en haut qui fait que cette identité-là, elle est morte, elle est enterrée. Et le Saint-Esprit venant habiter en moi, dans ma vie, me régénère, m'a généré à nouveau, m'a fait naître d'en haut, et je suis une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est la partie 1 du salut, qui est faite une fois pour toutes à la conversion lorsque on passe de la mort à la vie. Et Dieu nous donne une nature nouvelle qui est capable de marcher en nouveauté de vie. Ce que le vieil homme, ce que la chair est incapable, la chair, le vieil homme est incapable de plaire à Dieu. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Mais là, vous dites, mais je sais que je suis passé de la mort à la vie, je sais que je suis sauvé, je sais que j'ai été régénéré, je sais que le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et oui, je sais que je suis une nouvelle créature, mais j'ai quand même un peu l'impression de stagner. J'ai un peu l'impression qu'il me manque quelque chose, j'ai un peu l'impression que la promesse de Dieu d'une nouvelle nature, elle a du mal à se concrétiser dans la réalité. Et j'aspire à plus, j'aspire à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, je me sens peut-être un peu à l'étroit, étriqué dans cette vie chrétienne. Alors il y a une bonne nouvelle. C'est que le salut, diapo suivante, ne se cantonne pas au fait d'avoir été généré, avoir une nouvelle genèse génétique, la semence de Dieu. Mais ça se poursuit tout au long d'une vie par le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération, c'est vrai. Mais nous continuons d'être sauvés par le renouvellement du Saint-Esprit. Je vais prendre une image, un exemple. Plusieurs exemples me viennent à l'esprit, mais on a tous entendu des histoires ou des aux infos, par exemple, de jeunes filles qui avaient été kidnappées, vous savez, qui ont passé 10, 15 ans dans un sous-sol, jusqu'au jour où elles ont réussi à s'échapper. Vous avez entendu ces histoires, hein? C'est terrible, hein? Et on peut dire que le jour où elles se sont échappées, ou le jour où on les a trouvées, ou le jour où on les a délivrées, elles ont été sauvées. Et elles ont été sauvées une fois pour toutes, oui ou non? Elles sont plus dans le bunker, elles sont plus enfermées, elles n'ont plus leur bourreau en face tous les jours. Elles sont sauvées. Oui, mais il y a un salut qui a besoin de se poursuivre parce que ce qu'elles ont vécu les a abîmées, les a détruites. Et il y a besoin d'une restauration, il y a besoin d'une guérison. Et il y a besoin, pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, il ne s'agit pas juste d'être sorti du bunker. Pour marcher en nouveauté de vie, il va falloir qu'à l'intérieur, il y ait des tas de choses qui se passent pour que ces personnes puissent digérer, si l'on peut dire, surmonter et reconstruire pour devenir non seulement guéri, restauré, réparé, mais capable ensuite d'accomplissement de valeurs, de pouvoir poursuivre leur vie en posant des actes, en posant des projets qui donnent du sens, qui fassent du bien, qui soient utiles. Et c'est toute la question du chrétien. Il a été enfermé par un bourreau, par Satan, par le péché, et le péché nous abîme, et nous abîme durablement, n'est-ce pas ? Et le jour où nous avons crié à Jésus-Christ pour être sauvés, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés. Il nous a fait sortir, il nous a sauvés, il nous a transportés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume du Fils. Oui, mais il y a tout un travail de salut qui se poursuit dans nos âmes, dans nos cœurs, tout au long de notre vie, pour guérir, pour être restauré, et pour devenir des hommes et des femmes qui posent des actes, des œuvres, des projets qui ont de la valeur, qui ont du sens, qui sont utiles à nous-mêmes et aux autres. C'est ce renouvellement du Saint-Esprit que j'aimerais considérer de plus près ce matin. En Romains 12, au verset 2, si vous prenez ce verset, il nous dit une chose: ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne soyez pas dans le moule de l'ère du temps, et dans l'ère du temps, on a telle manière et telle manière de vivre, et on fait tel choix, tels actes éthiques, moraux, familiaux, professionnels, que sais-je, toute une manière de vivre. Mais dans cette manière de vivre, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses neutres, il y a des choses qui sont destructrice et que Dieu appelle du péché. Et nous avons besoin de discerner, nous dit ce verset, quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, comment veux-tu que je vive en nouveauté de vie? Non pas comme un enfant des ténèbres, mais comme un enfant de lumière. Et j'ai besoin, Seigneur, de discerner ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, nous dit ce verset. Comment est-ce qu'on peut discerner cela? Comment est-ce que nous pouvons discerner la volonté de Dieu pour la vivre? C'est dur de vivre la volonté de Dieu si on ne la discerne pas. Il s'agit de la discerner, puis ensuite de trouver la capacité, la force de la vivre. Il s'agit de la discerner. Ce texte nous dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est le cœur, c'est le nous, c'est notre être intérieur le plus profond, de là où tous nos choix, nos émotions, notre éthique, nos pensées, voilà, c'est le cœur, le nous, l'intelligence, en grec, hein, c'est les deux. Et bien ça, cet être intérieur, il a besoin d'être renouveler. Et le renouvellement, on peut prendre des exemples. Vous prenez par exemple un artiste, un musicien. Vous dites, sa musique, elle est bien et tout ça. Le problème, c'est qu'il fait toujours la même qu'il y a 20 ans. Et il n'a pas su se renouveler. Peut-être c'est un peintre.
Et c'est tout un enjeu de savoir, d'ailleurs dans n'importe quel métier, mais aussi dans le couple, et aussi en beaucoup de choses, savoir se renouveler. Et pas faire que du réchauffer, en quelque sorte. On dit, mais pour être renouvelé, je reste le même tout en changeant. C'est, il va falloir être neuf tout en restant moi-même. C'est ça, se renouveler. Et le chrétien est appelé à être renouvelé, remis à neuf. Et le salut consiste au renouvellement du Saint-Esprit. Non pas juste, je suis passé par la conversion, j'ai donné mon cœur à Jésus, et puis depuis, ben, ma vie chrétienne a commencé, mais voilà quoi. Rien de neuf depuis. Rien de neuf. Ben, c'est qu'il manque la deuxième partie du salut. Hein. Il manque le renouvellement du Saint-Esprit. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé est absolument captivant dans le grec. Vous le connaissez. C'est le verbe métamorpho. Soyez métamorphosés. C'est pas rien, hein, comme mot qui est employé ici dans la parole de Dieu. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voulez une métamorphose ? Laissez le Saint-Esprit vous renouveler votre être intérieur. Demandez-lui de renouveler votre être intérieur. Il va métamorphoser. Alors, ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul emploie cet exemple. Et on va passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Là, c'est une chenille. Là, c'est la métamorphose. Et nous avons un papillon. Alors, si on lit la définition d'une métamorphose, la métamorphose correspond à des changements morpho-anatomiques et physiologiques brusques et irréversibles, changeant le plan d'organisation de l'individu. Pas mal pour le chrétien, ça, hein? Le plan d'organisation de l'individu change complètement. Notre manière de penser, renouvelée dans votre intelligence. C'est une phase de développement dite indirecte, caractérisée par la naissance d'une larve autonome, incapable de reproduction sexuée, qui aboutira à l'édification d'un adulte appelé imago. Vous vous dites, pourquoi il a mis ça ? Ça, c'est l'imago. Hein ? C'est-à-dire que c'est l'aboutissement final, c'est l'image de l'espèce, telle espèce de papillon, on le voit à la fin, c'est le produit fini, après être passé par métamorphose. Eh bien, lisons un verset suivant, dans la diapo suivante. En 2 Corinthiens 3,18, vous pouvez le prendre dans votre Bible. Et dans le grec, nous allons retrouver ces deux mots. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes, alors dans le texte ici, c'est nous sommes transformés, n'est-ce pas ? Mais le grec, c'est métamorpho, nous sommes métamorphosés en la même image. Intéressant. Intéressant que le produit fini dans les sciences d'une métamorphose, c'est l'image de l'espèce, ça s'appelle l'imago, et l'on retrouve le même mot dans la parole de Dieu lorsqu'il parle d'une métamorphose en la même imago, c'est-à-dire ressembler à Jésus-Christ. Notre image, c'est ressembler à Jésus-Christ. Et nous sommes transformés, métamorphosés, pour ressembler à l'image finale qui est Christ. Et ce qui est passionnant, c'est que contrairement aux métamorphoses que nous avons ici, ce n'est pas une métamorphose, c'est une pluralité successive de métamorphoses. Nous sommes métamorphosés en la même imago de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme si on avait la chenille là, une première métamorphose, un papillon, on se dit waouh, déjà, oh super le changement. Je te dis, attends, c'est pas fini, il va y avoir une autre métamorphose. Alors, je ne sais pas en quoi pourrait se métamorphoser le papillon qui soit encore plus époustouflant. Mais c'est le cas pour le chrétien. Dieu va travailler en lui par l'Esprit du Seigneur pour le renouveler et pour le métamorphoser de gloire en gloire. Et autre métamorphose, parce qu'il y a eu un renouvellement de l'esprit, on dit, oh, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir encore un. Voilà, j'ai dû arriver au bout. Attends, il y en a encore une autre. Et nous sommes métamorphosés, et il y a des métamorphoses successives lorsqu'on laisse le Saint-Esprit renouveler notre être intérieur. Alors, c'est toute la question, c'est une nouvelle année qui s'ouvre devant nous, mais est-ce que vous voulez que ce soit une année nouvelle ? Une année nouvelle ? Comment faire ? Tiens, voilà une image d'une mue. Une mue de cigale. Vous voyez peut-être pas très bien, mais là, c'est la cigale qui sort de sa cuticule. Donc ça, c'est, on en trouve hein, sur les arbres, des fois. Nous, chez nous, on en a. Des vieilles peaux, des vieilles carcasses de cigale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est dans le processus de la métamorphose également. On va lire la définition. Les mues sont nécessaires à la croissance ou à la métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut changer de peau. Parce que celle-là devient trop étroite, trop étriquée. Vous vous sentez des fois un peu trop étriqué dans votre peau de chrétien ? Et donc le rejet de la cuticule c'est l'enveloppe externe, hein, l'exosquelette là, porte plus particulièrement le nom d'exuviation, bon on s'en fiche, alors que le mot mu peut englober des phénomènes préparatoires et consécutifs à l'exuviation. Bon, c'est-à-dire ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est l'ensemble de la mu, ce n'est pas seulement le fait de sortir de son enveloppe. L'ancienne cuticule qu'abandonne l'animal, l'exuvie est aussi parfois appelée mu. Bon, ça c'est bien. Allez. On passe au verset suivant, Éphésiens 4, versets 20 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, donc dépouiller c'est rejeter, hein, c'est le rejet de la cuticule. Hein. Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, il est là le vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, encore le renouvellement hein, de l'être intérieur, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Eh bien, ça c'est quelque chose qui n'est pas fait une fois pour toutes. C'est pas le baptême de la régénération. C'est pas cette partie-là du salut. C'est la partie du renouvellement de l'esprit. Et le Saint-Esprit va renouveler une étape après une étape. Et d'étape en étape, eh ben on va lâcher des mues. Et à un moment, on dit, mais Seigneur, moi là, je suis un peu à l'étroit dans ma vie de chrétien, je ne sais pas. J'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. Alors là, c'est à ce stade-là que peut-être certains se disent, oui, la vie chrétienne, finalement, ça ne tient pas à ses promesses. Oui, parce qu'on s'imaginait être un papillon comme ça, là, être Jésus-Christ d'un coup. Non ? Le Seigneur ne ment pas, il tient ses promesses. Mais encore faut-il vivre ce renouvellement de l'esprit. Alors ne vous découragez pas dans votre vie chrétienne en disant « je me sens à l'étroit ». Demandez au Seigneur d'intervenir et dites « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé par ton Saint-Esprit. J'ai besoin de vivre une métamorphose. Peut-être qu'à un moment j'ai stagné, je me suis arrêté à la métamorphose d'avant, à l'étape d'avant, qui m'avait fait beaucoup de bien d'ailleurs. J'avais appris à pardonner par exemple, ou j'avais appris à lâcher la colère. C'était une vraie métamorphose chez moi. Mais c'est vrai que depuis, j'ai peut-être besoin d'une métamorphose suivante. Peut-être que mon cuticule, ma cuticule est un peu... il faut que je grandisse, quoi. Il faut que je grandisse. Donc, il faut me dépouiller de cette enveloppe qui... parce que peut-être qu'à tel égard, elle contient encore quelque chose de ma vie passée. Elle contient encore un peu de vieil homme. Et je vais me dépouiller de ça. Je vais être renouvelé par Saint-Esprit, puis je vais revêtir l'homme nouveau. Une année nouvelle, il faut un homme nouveau. Amen. Un homme nouveau. Il y a un autre verset encore plus fort, enfin, plus court quelque part. Colossiens 3, verset 9-10. Et on retrouve l'imago ici. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. C'est ça qui est incroyable. Je dis, si c'est un homme nouveau, oui, mais il se renouvelle. Il se renouvelle encore. Donc, c'est pas juste, je me suis converti, j'ai été sauvé par Jésus-Christ, ça y est, je suis un chrétien, et il y a quoi après? Non, c'est un homme nouveau. C'est un homme nouveau, il se renouvelle. Il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image, on retrouve l'imago de Jésus-Christ, dans cette idée de métamorphose, et d'enlever ses vieilles peaux pour revêtir la nouvelle. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, si je veux vivre une année nouvelle, il ne s'agit pas, avec la crise de la quarantaine peut-être, de me dire, il va falloir que je change de femme. J'aurai une année nouvelle, hein? Ou il va falloir que je démissionne de mon travail et que je... Peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire? Hein? En ermite, ouais. Ou, peut-être changer d'église. Peut-être c'est l'église. Non, j'ai besoin de renouveau, là, faut que je change d'église. Le Seigneur, il nous dit, faut plutôt que ton homme nouveau se renouvelle. Nous, on cherche toujours des trucs extérieurs. Le Seigneur, il nous dit, attends. La mue, la métamorphose, c'est ton être intérieur. Arrête de chercher à l'extérieur. C'est là que je veux travailler. Alors j'aimerais terminer avec le fait, et c'est la dernière diapo, avec trois versets. Vous avez vu un tractopelle, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils défrichent un champ nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment, le Seigneur me dit, tu veux une année nouvelle? Il va falloir faire des choses. Alors on prend le premier verset, 1 Corinthiens 5, versets 6 et 7. C'est l'image du levain et de la pâte. Vous savez que lorsque justement on prend la Sainte Cène, c'est du pain sans levain. Le levain qui représente le péché, ce qui fait fermenter, ce qui fait lever. Et là, il est dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain. Ça, ça nous rappelle, vous étant dépouillé du vieil homme. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Là encore, beaucoup de versets hein, où le Seigneur nous parle de choses nouvelles. Nouvelles. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Or, on dit, mais il nous dit, vous êtes sans levain, puis faites disparaître le vieux levain. Il nous dit, marchez en conformité avec l'identité qui est la vôtre. Vous êtes sans levain, puisque Christ est mort pour vos péchés, il a crucifié vos péchés sont pardonnés, vous êtes sanctifiés, justifiés. Alors maintenant, puisque vous êtes une pâte nouvelle, à vous de jouer. Travaillez, nous est-il dit, travaillez à votre propre salut. Voilà, c'est ça là. J'ai un champ, je vais travailler. Je vais enlever ce vieux levain pour être une pâte nouvelle, telle que Christ m'a rendu dans mon identité sans péché, purifié, absous, pardonné. Mais je peux aussi ne pas le faire. Est-ce que pour cette année 2021, je vais être une pâte nouvelle ? Si je travaille avec le Saint-Esprit pour être une pâte nouvelle, il va me renouveler. Et je vais vivre dans ma vie chrétienne, dans mon être intérieur, quelque chose que peut-être je n'envisageais même pas, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi la métamorphose après celle du papillon. On ne sait pas trop quel être il peut en sortir, mais quelque chose de, comme dit, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Que du mieux, que des choses extraordinaires dans notre être intérieur, dans notre identité, dans qui nous sommes, qui nous devenons. Parce que nous avons une semence qui vient de Dieu, ça c'est la base. Sans cette semence qui vient de Dieu, il n'y a rien. Et nous avons été régénérés pour une espérance vivante et nous pouvons ainsi être renouvelés. Et nous terminons donc par Jérémie 4:3 et Osée 10 verset 12. Jérémie 4:3 qui correspond à l'image que j'ai mise. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Là, c'est intéressant. Peut-être que ça va être une nouvelle année, mais la même que l'année dernière, c'est-à-dire que je vais continuer de semer dans le même champ, de semer parmi les mêmes épines que l'année dernière. Il y avait les écueils, il y avait les problèmes, je vois bien quelles sont les épines, mais bêtement, je vais vivre une nouvelle année dans le même champ et je vais semer parmi les mêmes épines. Le Seigneur dit, mais défrichez-vous un champ nouveau. Ne continue pas en 2021 de semer parmi les mêmes épines que celles de 2020. Tu vois bien que ça n'a pas marché. Tu vois bien que les épines, elles étouffent la semence. Défriche-toi un champ nouveau. Peut-être c'est par rapport à des mauvaises habitudes, des péchés, peut-être des ministères et des services. Le champ nouveau. Est-ce que nous voulons que 2021 soit pour nous une année nouvelle avec un champ nouveau? Et Osée 10, verset 12, nous rappelle le temps qui passe. Hein. Une année de plus, oui. Osée 10, verset 12 nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. il est temps de chercher l'Éternel. Alors, frères et sœurs, défrichons-nous un champ nouveau pour vivre une année nouvelle. Réalisons que le salut par lequel Dieu nous sauve, nous a sauvés, c'est pas juste être sauvé, être pardonné, avoir la vie éternelle, je sais que je ne serai pas jugé avec le monde, je sais que j'ai Jésus-Christ comme avocat, je sais que mes péchés sont pardonnés, et j'ai une nouvelle nature, et j'ai envie des choses de Dieu, mais voilà, ça s'arrête là. Non. Le salut que Dieu nous donne, quand il nous a sortis de notre prison, où Satan, ce bourreau, nous avait enfermés, asservis, eh bien, Dieu n'a pas fait que nous sortir de là, mais il fait le travail intérieur de guérison, de restauration, pour que nous devenions des hommes et des femmes qui allons de beauté en beauté, de métamorphose en métamorphose, avec des temps forts. C'est les temps de mue. C'est les temps où, allez, c'est le temps maintenant de te débarrasser de cette carcasse-là, parce que tu as besoin de grandir. Et tu as besoin, là, que le Saint-Esprit te renouvelle. Et il le fera. Amen. Alors, demandons au Saint-Esprit de nous renouveler. Et il le fera. Soyez métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes, de Corinthiens 3, 18, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est passionnant, et moi je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je peux devenir encore demain en Jésus-Christ ? Le trajet ne s'arrête pas, hein ? Alors allons-y et défrichons-nous un champ nouveau. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour l'année que tu ouvres devant nous. Seigneur, tu veux qu'elle soit nouvelle. Parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Tu nous as donné un homme nouveau. Mais qui ne stagne pas. Un homme nouveau qui se renouvelle. Et c'est par ton esprit que tu peux nous renouveler. On veut, Seigneur, vraiment comprendre ton projet pour nous, pour qui nous sommes en toi, et aller de l'avant. Seigneur, il y a un moment où nous avons besoin de cesser de semer parmi les mêmes épines et de nous défricher un champ nouveau. Nous avons besoin de faire disparaître le vieux levain pour être une pâte nouvelle, pour être un champ nouveau. Pousse-nous à cela, Seigneur, pour que nous vivions une année 2021 époustouflante, formidable, où nous verrons une gloire, peut-être une autre encore, dans laquelle tu nous transformeras, tu nous métamorphoseras par ton esprit. Agis dans ton peuple, au nom de Jésus. Amen.